Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Aline Piboul, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Aline, si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour évoquer notamment un disque qui vient de paraître pour le label Artalina, consacré à trois compositeurs qu'on n'attend pas forcément liés ensemble, Bach, Greff et Liszt, et dont le titre, alors je vais le dire en français, c'est « La coïncidence des opposés ». Alors dites-le nous autrement, Aline.
Coincidentia oppositorum.
Et donc pourquoi ce titre?
Alors c'est un terme alchimique. Et en fait, j'ai longtemps lu les livres de Jung. Et Jung parle d'intégrer certaines parts de nous-mêmes, donc par exemple notre part sombre, ou alors quand nous sommes une femme, d'intégrer notre part masculine, l'animus, et inversement donc chez les hommes. Et en fait, ce sont trois compositeurs, ou surtout deux, Liszt et Greff, qui ont fait un chemin spirituel très intense. Et donc j'ai voulu, non pas les confronter, mais voilà, montrer leur cheminement au travers de leur vie avec des œuvres extrêmement sombres et des œuvres extrêmement lumineuses.
Alors Olivier Greff, c'est un compositeur qui est né en 1950, qui nous a quittés en 2000 et qui a laissé une marque très très profonde. Je dois vous avouer que de son vivant, je n'ai pas réalisé qu'il y aurait une telle postérité. Sa musique, je la connaissais fort peu. Et de plus en plus, là on est 24 ans après sa mort, elle a un impact de plus en plus considérable. Alors, il y a des gens comme vous, il y a une association, on peut en parler.
C'est ça, l'association Olivier Greff. Et en fait, je pense qu'il y a des interprètes qui l'ont connu. Comme Henri de Marquette, par exemple, ou le quintet Saint-Onia, Romain David, Patrick Langot, il y a le compositeur Benoît Menut aussi, sont des gens comme ça qui l'ont extrêmement bien connu et qui continuent d'œuvrer, de créer sa musique. Il y a des gens comme Annelise Touvenin, qui est remarquable, qui est en ce moment en train d'écrire une thèse sur Olivier Greff, qui travaille à l'édition, les gravures de sa musique. Donc il y a quand même des gens qui sont persuadés, qui sont convaincus de la puissance de sa musique. Et c'est quand même souvent les musiciens eux-mêmes, en fait, qui ont joué sa musique et qui ont vu l'impact que ça avait sur eux-mêmes lorsqu'ils l'ont joué. Et c'est vrai que moi, j'ai joué pas mal d'œuvres d'Olivier Greff maintenant. Et je dirais que c'est le seul compositeur, et pourtant, voilà, j'en aime tellement d'autres.
Oui, vous avez une très grande
voilà,
curiosité.
Mais c'est le seul compositeur qui, lorsque je le travaille, je peux me mettre à pleurer au piano dans le travail, c'est-à-dire qu'autant quand on joue une pièce qu'on la connaît super bien, on peut parfois se laisser submerger par l'émotion et pleurer, ou quand on écoute de la musique, mais lorsqu'on travaille, en général, on est dans le fer. Voilà. Et en fait, c'est un compositeur qui, même quand je le travail me bouleverse totalement. Et d'ailleurs, il disait que ce qu'il voulait, c'était charrier les gens à terre. Il voulait que sa musique ait un véritable impact. Et il a toujours joué sur les émotions, en fait. C'est quelqu'un qui n'a appartenu à aucune chapelle. C'est pas un intellectuel de la musique. C'est quelqu'un de profondément spirituel et qui était vraiment dans la chair et dans la vie.
Alors ce disque, il succède à plusieurs disques que vous avez fait paraître. J'avais eu le plaisir de vous rencontrer à propos d'un disque consacré à Samazoy, Decaux, Ferroux, Aubert. Donc déjà, c'était pas Beethoven.
Que tout le monde connaît, bien
Schubert,
sûr, voilà, c'est
et
ça.
Mozart. Un disque magnifique, édité sous l'égide du Printemps des Arts de Monte Carlo. Vraiment un disque, oui, avec des découvertes extraordinaires. Et puis il y avait eu un disque consacré à la flûte et au piano.
Avec Jocelyn Aubrin.
Voilà, avec notamment du Tilleux et puis Prokofiev. Voilà. Et puis il y avait eu un disque aussi merveilleux, aussi avec du Tilleux et Fauré. Donc à chaque fois, c'est quand même des projets, alors après coup, on se dit, Aline, qui nous sont nécessaires à nous. C'est-à-dire que, l'interprétation pianistique, je ne vais pas vous faire rougir, elle est magnifique. Mais pas, enfin, l'apport du disque, c'est aussi de nous faire découvrir un répertoire extraordinaire. Et c'est le cas de ce dernier disque consacré à Bach, Greff et Liszt. On va commencer par Bach, parce que vous parlez d'un cocon. Puisque deux œuvres de Bach, brèves, encadrent les œuvres de Liszt et Greff. Vous commencez par un choral de Bach. Et puis, je vous disais, hors micro, je disais, c'est incroyable, parce que ce choral... il est beaucoup joué par les organistes, par les pianistes. Et puis le début, je ne connaissais pas ce début.
Effectivement, j'ai copié l'idée d'Yvonne Lefébure, dont l'enregistrement chez Solstice comporte Ich ruf zu dir, avec quelques mesures qui seraient probablement de Bach, mais on n'en est pas sûr. Et donc Yvonne Lefébure commence par c'est quelques mesures qui amènent vers ce choral, et je trouve ça absolument magnifique. Plutôt que d'avoir le choral directement, là on est baigné dans la musique et tout à coup on a ce choral qui arrive, et je trouve ça d'autant plus merveilleux. Et en fait j'ai commencé par Ich ruf zu dir, puisque ça veut dire je t'appelle, et comme c'est un programme sur la spiritualité. Et qu'on a deux compositeurs, Liszt et Greff, qui ont vécu des grandes crises mystiques et qui ont vraiment sombré à certains moments de leur vie et qui ont été appelés. Je trouvais que Ich ruf zu dir, je t'appelle, ça correspondait tout à fait à ce qu'ils avaient dû ressentir sur cet appel.
Alors Aline Piboul, on connaît votre curiosité insatiable pour le répertoire, mais vous jouez aussi le répertoire classique.
Le grand répertoire. Écouter,
jouer des sonates de Beethoven, du Chopin. Mais vous, au long de votre itinéraire d'apprentissage, puisque vous avez été révélé aussi par un prix au Concours d'Orléans, donc très lié à la musique contemporaine.
À la musique du XXe siècle.
Ah pardon, oulala.
En fait, mais je dis ça parce que très souvent, les gens me parlent effectivement de musique contemporaine par rapport à ce concours. Et l'idée de Françoise Tina, quand elle a créé ce concours, c'était d'ouvrir à la musique du XXe siècle et non pas qu'à la musique contemporaine. Et c'est bizarre cette image parfois qu'on peut avoir de ce concours très contemporain, parce que moi quand même, quand je l'ai passé, c'était en 4 tours à l'époque. Donc on avait 2h30, 2h45 de musique à jouer sur une semaine. Et le compositeur le plus ancien que j'ai joué, c'était Rachmaninoff. Donc j'avais quand même du Rachmaninov, du Fauré.
J'aimerais bien vous écouter dans du Rachmaninov.
Et ça fait longtemps. ça fait 10 ans, parce que j'ai été lauréate en 2014. Et je crois que depuis Rachmaninov, je crois que j'en ai pas rejoué. Mais en tout cas, j'avais Rachmaninov, j'avais du Fauré, le 7e nocturne. Je jouais du Debussy aussi. Et puis après, il y avait aussi Boulez, Stockhausen, et puis des créations, Jérôme Combier. Je crois que j'avais joué Tristan Murail aussi. Donc mais c'est très ouvert, et en fait l'idée de ce concours, c'est quand même d'ouvrir les gens à tous les mouvements du XXe siècle en fait. Et en fait c'est très très vaste finalement, tout ce qui s'est passé en un siècle, tous les courants esthétiques qu'il y a pu avoir, très très divers. Donc c'est un concours très ouvert et pas seulement sur le contemporain.
Ah non, mais vraiment j'ai eu un moment d'égarement à l'impiboule. Mais pour un vieux comme moi, Rachmaninov, c'est du contemporain. donc ce disque, il s'ouvre par ce choral de Bach, il se termine aussi par un extrait d'une cantate transcrite par Egon Petri. Ce thème qui est magnifique aussi, qui nous plonge, pour terminer, dans une atmosphère aussi.
C'est ça, pour moi, c'était un petit peu comme une berceuse, en fait. C'est-à-dire qu'il est issu d'une cantate profane, c'est la cantate de la chasse.
Voilà.
Et en fait, ça raconte que tous les moutons peuvent paître en liberté et en toute sérénité, en fait. Et je trouvais que ça avait un peu comme un rythme de berceuse et quelque chose d'un petit peu répétitif. Et comme finalement, ce côté répétitif, ça vient aussi des prières, des litanies, et que Greff et Liszt étaient profondément mystiques. Je me suis dit, déjà, qui d'autre que Bach pourrait entourer ces deux compositeurs ? Et ce côté berceuse apporte quelque chose de totalement apaisant après tout ce qui s'est passé dans ce disque, qui commence par une première partie extrêmement sombre. En fait, c'est un disque en deux parties. Ça aurait pu être un vinyle avec une face obscure, une face
plus lumineuse. Oui.
Et en fait, c'est assez drôle parce que quand j'ai reçu le master, donc tout le disque, mais sur une seule plage, j'ai réalisé en l'écoutant que la moitié, pile poil, et quand je dis pile poil, c'est vraiment à la seconde près, ça correspondait à la fin de la partie lumineuse et au début de la partie obscure. Et je me suis dit que j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et c'est drôle parce que ce disque est finalement, comment dire, dans la sonate Codex Domini, d'Olivier Greff, il écrit que c'est une sonate totalement codée, et qu'il aurait fallu qu'il écrive un livre de 100 ou 200 pages pour expliquer tous les codes, et que c'est une sonate totalement autobiographique. Et il dit même que c'est comme un cliché photographique de son âme. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, dans le disque, en ayant choisi tel agencement, j'ai écrit un texte, Annelise a écrit un texte aussi, Annelise Touvenin. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de symboles auxquels je n'avais pas forcément fait très attention au début. Comme par exemple le fait d'avoir eu envie d'un troisième compositeur. On peut se dire, le chiffre 3, c'est tout un symbole. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que Bénédiction, Dieu dans la solitude, c'est une œuvre que je joue depuis longtemps. Et j'ai réalisé de listes. Et en fait, je pourrais presque dire que ce disque est presque un peu autobiographique aussi, finalement. Parce que cette œuvre, j'ai vécu un très très grand moment totalement mystique la première fois que je l'ai joué. Et il se trouve que la première fois que je l'ai joué, c'était mon premier vrai récital seul sur scène. Et c'était au CNSM de Lyon. Et quand on étudiait le piano là-bas, on devait tous faire un récital en deuxième et en troisième année. Un récital complet, d'une heure et quart, classique. Et on nous laissait le choix des œuvres. Et en fait, j'ai monté cette œuvre pour la première fois pour ce premier concert seul. Et en fait, j'ai vécu un moment de grâce, comme en fait ça ne m'est jamais réarrivé finalement par la suite. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la sensation que c'était plus moi qui jouais en fait, et que j'étais juste la passeuse de quelque chose de qui était bien plus vaste que moi.
C'est une belle définition de l'interprète aussi.
Oui, exactement. Vraiment, je ne ressentais plus physiquement ce que je faisais, et j'étais émerveillée par ce qui sortait du piano. Et en fait, à la fin de ce morceau, il y a eu un silence du public qui a duré, mais je ne sais pas combien de temps, mais enfin, c'était absolument extraordinaire. Et quand je suis sortie de scène, c'est là que j'ai compris que ça serait vraiment ça que je voulais faire. C'était monter sur scène, c'était vraiment faire du piano, faire des récitals solo. Et pas que, mais en tout cas, surtout du récital solo.
Vous connaissez comme chambriste aussi.
Oui, je fais beaucoup de musique de chambre avec des chanteurs, et puis avec chanteurs, etc. Mais que quand même, le solo, le fait d'être seul, c'est-à-dire de n'avoir aucun compromis à faire musical, que c'était vraiment important pour moi. Et donc finalement, que je l'ai mis dans ce disque, j'ai réalisé par la suite qu'en fait, j'avais eu moi-même une expérience extrêmement mystique, comme Liszt et comme Greff ont pu avoir aussi, dans un autre genre, on va dire, bien sûr.
Alors Olivier Greff, on va en dire deux mots quand même, parce que les auditeurs ne connaissent pas forcément ce magnifique compositeur. Donc il est né en 1950, il a été l'élève de Lucette Descaves, et puis l'élève de Berlioz aussi.
Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de ce disque, c'était aussi d'avoir deux compositeurs, Greff et Liszt, très mystiques, très spirituels. Mais l'autre chose qui les relie, à part d'être compositeurs, c'est d'avoir été des immenses pianistes, des immenses virtuoses. Et Greff, donc maintenant, on s'en souvient vraiment comme compositeur, on le valorise comme compositeur, mais on a des enregistrements de lui.
Notamment un disque de Poulenc, j'ai vu.
Du Poulenc, et puis il y a des enregistrements de sa musique, qui sont des enregistrements totalement hallucinants. Il a enregistré la sonate de guerre, et on a des témoignages du tombeau de Couperin avec Henri Barda. C'était quelqu'un de génial à tout niveau, en fait, d'une immense culture.
Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, Aline.
Alors, malheureusement, il est mort, j'avais tout juste 20 ans. Et donc, je ne connaissais même pas sa musique, en fait. Je l'ai connu quelques années après, grâce au disque d'Harmonia Mundi, de Pascal Amoyel d'Emmanuel Bertrand, avec la sonate de Requiem. Et c'est à cette époque que j'ai entendu la sonate de guerre. Et la sonate de guerre, je l'ai justement jouée au concours d'Orléans et j'ai eu le prix Olivier Greff. Voilà, parce que le concours d'Orléans marche pas. Enfin, à l'époque, ça marchait avec beaucoup de prix différents selon ce qu'on jouait. Et donc, j'avais été lauréate pour. Notamment pour Olivier Greff.
Il était très hanté par la Shoah aussi. Son père avait été déporté à Auschwitz.
Exactement. Alors, son père avait été un grand pianiste et il est venu en France. Il était amoureux d'une femme qui lui a dit « Jamais de la vie, je n'épouserai un musicien, il faut faire un vrai métier ». Donc, il s'est tourné vers la médecine.
C'est dur.
Oui, très dur, mais finalement, il ne l'a pas épousé. Il en a épousé une autre. Et donc, il s'est tourné vers la médecine, il a été médecin.
Ah, malgré cette rupture.
Et oui, oui, tout à fait. Et en fait, effectivement, il a été déporté, alors non pas comme juif, parce qu'il avait réussi à avoir des certificats de baptême avec son épouse, mais il était communiste.
Ah, oui.
Donc voilà, il a été à Auschwitz, en fait, et... il s'en est sorti. Il a réussi à se cacher au moment de la marche de la mort. Et il en est ressorti donc quelques jours après. Et ce qui est très beau, c'est que c'est le piano qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, c'est la médecine qui l'a sauvé puisque les nazis avaient besoin de médecins. Donc il n'a pas été assassiné. Et après, c'est le piano qui l'a sauvé parce que quand il est sorti, il a... On lui a donné à manger parce qu'il jouait en contrepartie du piano dans les bars et restaurants jusqu'au moment où il a pu revenir en France. Et donc Olivier Greff est né en 1950, juste l'après-guerre. Et en fait, il a été vraiment totalement hanté par la Shoah. Et il y a de nombreuses œuvres de lui qui évoquent la Shoah.
Alors on va revenir à ces deux sonates que vous interprétez. Quand j'ai écouté votre disque, Aline, c'est des œuvres que je ne connaissais pas, ces deux sonates de Greff que vous interprétez.
C'est normal de ne pas les connaître.
Ah d'accord, j'avais un peu honte, mais donc
je ne suis
pas
le seul. Je vais vous dire pourquoi c'est normal de ne pas les avoir connues. C'est parce que la sonate Litaipo, c'est sur les trois poèmes de Litaipo, c'est une première mondiale.
Ben voilà.
Et d'ailleurs, elle n'était même pas encore éditée. Ça y est, on peut trouver la partition depuis quelques jours, puisque le travail de ce disque, c'était aussi de travailler avec Annelise Touvenin, donc, qui a écrit une partie du livret et qui a travaillé à l'édition des deux œuvres, les éditions critiques. Donc moi, j'ai été relectrice pour ces éditions critiques. Donc Litaipo, c'est une première édition, donc j'étais seulement la deuxième interprète à la jouer. Il y a eu la créatrice il y a une trentaine d'années, et ensuite moi. Et la Codex Domini, elle a été jouée uniquement, elle a été enregistrée uniquement par un des pianistes qui était, je pense pas que ça ait été le créateur, je me souviens plus, mais en tout cas il y a un seul enregistrement et qui a été fait d'après l'ancienne édition qui comportait énormément d'erreurs. D'où l'intérêt d'avoir fait cette édition critique, c'est qu'elle sort dans quelques jours, en fait, la partition. Et on a pu totalement réviser. Et c'était beaucoup plus compliqué que pour Litaipo, puisqu'en fait, Litaipo, il y avait plusieurs ébauches, plus le manuscrit final. Et Codex Domini, il y a un seul manuscrit. Et il y a beaucoup de choses qui sont quasi illisibles. Donc ça a été un travail phénoménal mené par Annelise. Et voilà, parfois il a fallu faire des choix aussi par rapport à ce qu'on connaissait déjà de lui dans d'autres œuvres, etc. Mais donc c'est normal que vous ne connaissiez pas ces œuvres.
Alors, il faut dire pour les auditeurs qui pourraient se dire musique contemporaine, c'est une musique d'un abord immédiat. Alors, il est très très fort, Olivier Greff, si je peux me permettre cette trivialité, parce qu'à la fois c'est une musique savante, toujours intéressante, toujours inattendue, qu'il n'y a jamais de cliché, et en même temps, elle est très abordable pour l'auditeur. Elle est redoutablement difficile pour le pianiste ou la pianiste.
Oui, ça, oui.
Mais pour nous, c'est une musique, un univers dans lequel on entre très facilement.
Oui.
Alors même que c'est un univers qui n'est pas justement facile. C'est une écriture très exigeante, mais facile d'accès.
Oui, exactement. En fait, moi, j'ai beaucoup joué sa musique en concert, et encore il y a deux jours. Et,
il y a deux jours, vous avez choisi de mettre l'opus 1, la dernière sonate de Beethoven.
Voilà, dernière sonate de Beethoven.
Et pourquoi
Mais parce qu'elle est totalement mystique aussi.
Vous aimez bien la mystique
oui,
aussi quand même.
Oui, un petit peu mystique aussi.
Vous en trouvez parfois dans les œuvres où on ne l'attend pas forcément, où on ne trouve pas forcément aussi.
Là quand même, c'est très clair. Parce que Codex Domini, en fait, il a écrit ça, il se sortait d'un cancer.
Oui.
Il se sortait d'un cancer et ça a probablement mûri inconsciemment pendant qu'il était malade. Et donc c'est quand même vraiment, je dirais, une réflexion sur la mort.
Oui, mais je parlais de l'opus 111 de Beethoven.
Et l'opus 111.
À ce moment-là, toutes les sonates de Beethoven, on peut les trouver mystiques tellement elles nous amènent vers...
Non, parce que celle-ci, elle va vraiment vers l'élévation. Le deuxième mouvement, l'Arietta, c'est vraiment là, on s'échappe de terre quand même, je trouve.
Enfin, on s'échappe de terre dans beaucoup d'œuvres de Beethoven, Aline.
Oh, celle-ci particulièrement quand même.
Non, mais je vous laisserai le dernier mot. Et donc cette sonate, elle est incroyable, elle est d'une beauté incroyable.
Oui.
Et alors je me disais, le thème c'est bizarre parce que à la fois c'est contemporain, il y a un côté justement populaire et c'est
alors c'est en fait c'est ça qui fait que enfin moi je trouve qu'il fait un peu le génie de Greff, c'est que il mêle toujours musique profane et musique sacrée. Et il est capable de s'inspirer de musique, même de variété. Là par exemple le Codex Domini, effectivement le thème du début qu'on n'entend que par petits bouts au début, parce que c'est quand même une sonate extrêmement angoissante, voilà, ça évoque le cancer, la mort, etc. Mais donc on entend ce début de thème qui est répété un petit peu comme une litanie justement. Et il se trouve que ce thème, c'est la chanson Domino, qui était chantée par André Claveau en 1950, année de naissance d'Olivier Greff. Peut-être un des premiers codes. Voilà.
Qui est lié à cette sonate.
Oui.
Mais ce thème, il a un charme fou.
Ce thème a un charme fou et en fait, c'est là où Greff est génial. Il reprend un thème qui est super et puis que tout le monde connaît, que tout le monde peut chanter, que tout le monde peut siffler dans la rue et il va en faire une musique absolument bouleversante qui va mêler à un choral
oui, il reprend le thème dans
anglais
le dernier
je ne sais plus, du XVIe siècle, je crois. Enfin bon, et comme ça, il est capable de mêler un choral qui est quand même un chant religieux à une chanson française. Il pouvait citer des chansons élisabéthaines. Enfin, c'est quelqu'un qui appuie. Il a beaucoup écrit sur des négros spirituels aussi. Quand on écoute la petite messe noire, c'est vraiment du négro spirituel. Et il était capable, comment dire, c'était quelqu'un, je pense, qui avait une soif de connaissance. Et puis, je crois qu'il était hyper amnésique aussi. Il se souvenait de tout. Et il a été imprégné de tous les mouvements. Par exemple, dans Codex Domini aussi, au milieu de l'œuvre, vous allez entendre quelque chose d'extrêmement violent. Là, il y a toute la rage de quelqu'un qui a peur de mourir quand même. Et sur ce passage-là, très violent, il s'est servi d'un rythme, d'une chanson, de Lou Reed, chanteur américain de rock. Donc, vous voyez, il peut vraiment... se servir de choses très simples et très connues et en même temps faire une fugue dans le deuxième mouvement de la sonate Litaipo. C'est une fugue en fait. Et donc c'est une écriture extrêmement savante.
Mais c'est incroyable parce qu'il a vécu 50 ans, il a composé 350 œuvres à
c'est
peu
ça,
près.
Oui, 330 opus je crois, quelque chose comme
mais
ça.
Oui, c'est
il, y a 20, il y a 22 sonates pour piano et donc la plupart ne sont pas enregistrées quand même. Hein. Là, c'était aussi l'intérêt de ce disque de proposer une création mondiale, les trois poèmes de Litaipo, de refaire un enregistrement de Codex Domini selon l'édition critique. Et puis, il y a la sonate de guerre qui a été enregistrée. Voilà, il y en a quelques-unes, mais il reste beaucoup d'œuvres encore à enregistrer d'Olivier Greff.
Et alors, c'est très difficile à interpréter parce que
c'est
vous disiez
très
que
difficile,
pianiste.
Oui. Parce que, c'est un pianiste fantastique qui, je pense, n'avait aucune limite physique. C'est en ça que c'était intéressant de le rapprocher de Franz Liszt aussi. Et en fait, il en demande beaucoup à ses interprètes. Et puis surtout, c'est extrêmement violent comme musique. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez avoir des côtés très méditatifs dans la sonate Litaipo. Le premier mouvement, c'est totalement méditatif. Il se passe très peu de choses. On change vraiment d'état d'esprit et puis on a l'impression de ne plus être dans le même temps. Et à la fois, on a des choses très violentes, mais qui peuvent faire mal physiquement. Moi, je me suis déjà fait mal en jouant sa musique, parce que c'est extrême.
C'est extrême, en tout cas, c'est magnifique à écouter. On n'a pas beaucoup parlé de Liszt, qui est donc l'autre versant de ce disque, avec cette deuxième ballade. On a parlé de Bénédiction de Dieu dans la solitude, Aline Piboul, mais cette deuxième ballade, qui est un grand chef-d'œuvre, qui dure près de 16 minutes, c'est une œuvre qui vous accompagne depuis longtemps ?
Alors, pour tout vous dire, elle m'accompagne depuis très longtemps parce qu'en fait, je l'ai entendue pour la première fois, j'étais adolescente et j'étais tombée folle amoureuse de cette musique. Après,
vous vous souvenez par qui vous l'aviez entendue ?
Ah non, je ne me souviens pas du tout. Je ne me souviens plus du tout. Comme on disait tout à l'heure, j'ai eu un peu des crises mystiques et j'ai eu beaucoup de remises en question. Et il se trouve que j'ai des œuvres comme ça, ou comme la Barcarolle de Chopin, que je rêvais de jouer quand j'étais adolescente et que j'ai osé aborder que des années après, par peur de mal faire, par peur de pas être à la hauteur, par peur de mal faire. Et donc la deuxième ballade, je l'ai montée exprès pour le disque en fait. Donc depuis, je la joue en concert, mais je l'avais jamais jouée avant d'enregistrer le disque.
Durant vos études, vous l'aviez pas travaillée ?
Pas du tout. C'est vraiment, j'ai continué de la travailler en l'enregistrant en fait, je dirais.
C'est beau ce que vous dites. Par exemple, on apprend que Sviatoslav Richter, il n'a jamais joué le 4e concerto de Beethoven parce qu'il avait peur de l'abîmer. On pense à un pianiste de cette dimension qui n'ose pas jouer une œuvre. Et donc, vous aussi, il y a des œuvres. Aujourd'hui, il y a des œuvres que vous n'osez pas aborder encore.
Mais alors là, par exemple, là, on parlait de l'opus 111 de Beethoven. Moi, il se trouve que la musique de Beethoven, je dirais pas que je l'ai détestée, mais elle représentait le conservatoire. Et comme je déteste les institutions, mes études ont été difficiles, enfin, j'ai eu tous mes prix, etc., brillamment, mais je veux dire, le fait d'être dans une institution, de devoir se plier à certaines règles, ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, très difficile pour moi. Et Beethoven, c'était vraiment relié aux examens. Aux examens, on a toujours une pièce de Beethoven à jouer parce que ça permet de voir si on est capable de tenir un tempo, de construire un discours, etc., etc., de voir techniquement telle chose et telle chose. Et donc, ça me faisait détester Beethoven. Et finalement, j'en ai joué en musique de chambre, en concert, mais je n'en avais jamais joué seule. Et la première fois que j'ai joué Beethoven seul en concert, en récital solo de piano, donc même pas avec orchestre, j'avais déjà joué du Beethoven, mais avec orchestre, et ben c'était il y a un an. Et j'ai commencé par jouer la 32e sonate, son ultime sonate. Oui. J'ai commencé par la fin. Voilà. Donc il y a des œuvres comme ça qui me font horriblement peur. Et puis petit à petit, j'arrive à m'y mettre. J'ai joué le tombeau de Couperin il n'y a pas si longtemps. Mais Gaspard de la Nuit, par exemple, c'est quelque chose que je sais que je vais l'aborder un moment parce que c'est une musique qui me fascine. Mais voilà, ça, je prends un peu le temps, quoi.
En tout cas, le répertoire que vous abordez déjà pour nous, c'est un tel bonheur, Aline Piboul. Là, cette année, donc 2024, on célèbre le centenaire de la mort de Gabriel Fauré, qui est quand même un compositeur qui vous est très cher.
Oui.
Précédent disque a été consacré pour moitié à Dutilleux et pour moitié à Gabriel Fauré. Donc c'est un compositeur qui vous accompagne.
C'est un compositeur que j'adore parce que, comment dire, toutes ses premières œuvres sont très inspiré par Chopin, par le bel canto. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec des chanteurs d'opéra. Pendant un temps, j'étais plus... je me destinais plus à être chef de chant. Et donc, c'est cet art de la phrase, de la longue phrase, du soutien. Ça me fascinait. Et puis, j'adore Chopin, tout ça. Donc, Fauré, c'était vraiment la suite logique. Et puis... J'adore ce qu'il a fait c'est un long parcours en fait. Ce qu'il a écrit à la fin de sa vie et ne ressemble pas à ce qu'il a fait au
quand
début.
Quand on pense au trio, des
au trio,
pour violoncelle et piano,
les
deuxième
dernières,
sonate pour violon.
Voilà, et puis les dernières barcaroles, les derniers nocturnes, c'est quand même des musiques. Et puis voilà, il a été marqué par ses problèmes d'audition, de surdité, tout ça. Et en fait, c'est très étonnant parce qu'à la fin de sa vie, je trouve qu'il retrouve... une écriture contrapuntique à la Bach, et ça donne l'impression que la surdité fait qu'il travaillait autrement, il travaillait dans sa tête, et que sa manière de traiter le piano n'est plus la même. Et quand on écoute le 13e nocturne, finalement, on alterne passages très contrapuntiques, très resserrés dans le clavier, très Bach, et on alterne avec presque quelque chose du passé, avec une espèce de rage et de douleur, parce que sa surdité le faisait immensément souffrir. Il ne pouvait plus entendre les œuvres. Et puis avant d'être sourd, son oreille était déformée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus aller à ses propres concerts, puisque ce qu'il entendait n'était pas la réalité. Et donc tout devenait complètement atroce. Donc c'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir. Et dans ce 13e nocturne, on passe d'une écriture très intérieure à une écriture totalement bouleversante de rage et très romantique.
On pourrait vous écouter des heures, Aline Piboul, non seulement jouer, mais parler. On va terminer avec un duo que vous formez, qui est inattendu, qui n'est pas un duo avec un musicien ou une musicienne, quoique peut-être qu'il...
Il est mélomane et il joue encore un peu.
Je veux parler de Pascal Quignard, avec lequel vous formez un duo depuis quelques années, magnifique.
Depuis 4 ans.
Là, vous en êtes au troisième, on ne dit pas spectacle, je ne sais pas comment on
peut
dire.
Alors, on appelle ça récital.
Oui, pardon.
Voilà, le terme exact de Pascal. Et effectivement, là, on tourne notre troisième projet ensemble. Le premier, c'était Boutès ou le désir de se jeter à l'eau, d'après son livre Boutès, qui était donc déjà édité chez les éditions Galilée. Et ensuite, nous avons travaillé sur Ruines. Donc là, ce sont des textes que Pascal avait écrits pour notre duo. Et là, on a voulu célébrer Forêt et célébrer... aussi son grand amour, son amour pour Marguerite Asselmans, qui a été son amante durant les 24 dernières années de sa vie. Et Marguerite Asselmans a joué un grand rôle, c'est elle qui, entre autres, allait au concert pour écouter la musique de Forêt et rapporter à son amoureux ce qui se passait à ses concerts, lui qui ne pouvait plus entendre sa musique.
Aline Piboul, durant cet entretien, il était beaucoup question de douleur, de mystique, de mort, de maladie, de choses effectivement extrêmement douloureuses. Mmh. On a abordé la Shoah par le biais d'Olivier Greff. Mmh. Et ça donne à la fois une image de vous en tant qu'interprète, mais ça donne une image, à mon avis, faussée de ce que vous êtes dans la vie, parce que pour moi, vous êtes à la fois capable d'entrer dans cet univers et en même temps, quand on vous côtoie...
Je dirais que, comme je vous disais tout à l'heure, ce disque est un petit peu autobiographique aussi, dans le sens où j'ai vécu aussi des grandes crises de remise en question très intenses.
Comme beaucoup d'artistes.
Hein. Voilà, à me dire qu'il ne fallait pas que je fasse ça, qu'il fallait que je fasse autre chose, etc. Donc j'ai quand même vécu des grands moments d'intense dépression. Et voilà, et en même temps, je crois que c'est pour ça que ces compositeurs m'ont d'autant plus touchée que je suis capable de passer du rire aux larmes, effectivement.
Avec vous, en tout cas, on est tellement heureux d'écouter toute cette musique. Et puis c'est vrai que cette musique, que ce soit celle-là, celle que vous interprétez, Bach, Greff, Liszt, dans ce disque qui vient de paraître, ou d'autres œuvres musicales, c'est une musique à la fois douloureuse et consolatrice. C'est le paradoxe de la musique.
Exactement. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'écris dans mon texte, parce que le livret donc, a été écrit par Annelise Touvenin concernant les sonates de Greff. Et moi, j'ai écrit un texte très personnel sur plutôt le projet avec ces trois compositeurs. Et à la fin, je dédie ce disque... à des proches, mais aussi à ceux que la musique sauve, parce que je suis persuadée que la musique peut vraiment nous accompagner à des moments où tout va mal et qu'elle peut nous raccrocher un petit peu à la vie et nous donner un peu espoir.
Ben, je suis bien d'accord avec ce pouvoir de la musique, et c'est sur ce pouvoir qu'on va se séparer. Aline Piboul, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée.
Merci à vous, merci.